a enduré 3 heures d'agonie, de souffrance, sans compter l'angoisse qui a précédé, les temps d'angoisse qui ont précédé sa crucifixion. Tout cela dans le seul et unique but de sauver nos âmes. Quelle grâce immense dont nous sommes les bénéficiaires ce matin. Nous lirons 2 versets seulement pour introduire cette réflexion. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 2. Genèse 1, 2. Et nous lisons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et puis un deuxième verset que nous lirons dans l'Évangile de Jean. Un deuxième verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. La question que j'aimerais nous poser, c'est quelle conception est-ce que nous avons de Dieu ? Comment nous représentons-nous Dieu ? Quelle image avons-nous de Dieu ? Certaines personnes imaginent Dieu comme étant un vieillard avec une longue barbe blanche assis sur les nuages. D'autres, des artistes dans l'art religieux de la Renaissance, ont représenté Dieu avec des mains qui tenaient le monde, qui tenaient la terre, ou encore avec une grande main dont l'index pointait une autre main plus petite, l'index d'une autre main plus petite qui représente l'être humain. Dieu est parfois aussi représenté par un œil à l'intérieur d'un triangle. C'est ce qu'on appelle le triangle de la Providence, l'œil de la Providence, pour montrer que Dieu voit tout, que rien ne lui échappe. D'autres encore, comme bon nombre de philosophes, ont une conception purement métaphysique de Dieu. Il est indéfinissable. Il est inconnaissable. D'autres le perçoivent encore comme une simple énergie ou une force. D'autres le pensent présent dans les différents éléments de la nature, dans les différents éléments de la création. Dieu, pour certains, est dans les forêts, se trouve dans les mers, dans les montagnes, dans la matière, dans tout ce qui a été créé, dans les arbres. C'est la perception du panthéisme. C'est la perception panthéiste de Dieu. La Bible nous donne, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons rappelé, nous définit Dieu, la nature de Dieu, comme étant un esprit éternel et infini. Le psaume 9, verset 2, nous dit, c'est un verset bien connu, « D'éternité en éternité, tu es Dieu, un esprit éternel, un esprit infini. » Le livre, premier livre des Rois, chapitre 8, verset 27, dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Dieu est éternel, Dieu est infini. Il est invisible, il est incorporel. On ne sait pas et on ne peut pas le représenter. Selon le premier commandement que nous connaissons bien, il est interdit de faire une quelconque représentation plastique de Dieu. Sauf si cette représentation est verbale, orale ou encore écrite. Et c'est la raison pour laquelle certains auteurs bibliques inspirés se sont autorisés à utiliser certaines comparaisons avec l'être humain pour définir, pour caractériser, pour expliquer Dieu. C'est ce qu'on appelle des anthropomorphismes. Donner à Dieu une forme humaine pour rendre plus accessible le concept de Dieu. Pour mieux cerner Dieu, donc certains auteurs bibliques utilisent des métaphores qui nous informent sur les différentes caractéristiques de Dieu. Alors, il y a énormément de versets dans la Bible qui utilisent ce genre de langage, ces anthropomorphismes. Le psaume 80, verset 1, par exemple, eh bien, nous parle de l'oreille de Dieu. On sait bien que Dieu est esprit, il n'a pas d'oreille. Mais, tout simplement, pour nous faire comprendre dans un langage humain que Dieu écoute. Et puis, on trouve dans le psaume 89, verset 10, le bras de Dieu qui symbolise la puissance de Dieu. En 2 Chroniques 16, verset 9, et encore dans Hébreux 4, verset 13, on parle des yeux de Dieu. On parle aussi, en Matthieu 4, de la bouche de Dieu. Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis en Actes 11, verset 21, eh bien, Luc, l'évangéliste, nous parle de la main de Dieu, symbole de sa protection. Exode 34, verset 16, nous dit que Dieu écrit les tables de la loi avec son doigt, le doigt de Dieu. Un autre anthropomorphisme encore, en Exode 33, verset 23, il montre son dos à Moïse. Et vous savez, pour en revenir à la question, mais quelle conception est-ce qu'on a de Dieu? Comment est-ce qu'on représente Dieu? Comment est-ce qu'on imagine Dieu? Il y a peu de scientifiques qui sont réellement athées. Beaucoup reconnaissent, ils sont déistes, comme on dit, ils reconnaissent l'existence d'un être supérieur qui est à l'origine des lois naturelles. Einstein, par exemple, Albert. Mais il dit ceci, face à une telle harmonie dans le cosmos que je suis capable d'identifier avec mon esprit humain limité, il y a encore des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et puis, trois petits points, après, il écrit, mais ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'il me cite pour soutenir de tels points de vue. Il y a encore des gens, malgré l'harmonie qu'il y a dans le cosmos, écrit-il, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Il reconnaît donc, comme beaucoup d'autres scientifiques par ailleurs, l'existence d'une intelligence supérieure sans toutefois accepter, malheureusement, l'idée d'un Dieu personnel. Il dit aussi, « Je ne crois pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actes de l'humanité ou encore, écrit-il, l'idée d'un Dieu personnel m'est totalement étrangère et me semble même naïve. » Alors, évidemment, il y a peu de personnes qui sont catégoriquement athées. Ce sont les personnes un peu idiotes qui disent que Dieu n'existe pas. La parole de Dieu nous dit par ailleurs, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ce sont les insensés qui disent ça. Les scientifiques ne sont pas des insensés en principe et ils reconnaissent une forme d'existence d'un être, l'existence d'un être supérieur. Alors, la reconnaissance d'un être uniquement métaphysique, fût-il doté d'une intelligence supérieure, n'apporte finalement pas grand-chose et offre une vue fataliste, pour ne pas dire pessimiste, de la destinée humaine. Or, la parole de Dieu, la Bible, au contraire, elle présente un Dieu autre qu'un Dieu lointain, métaphysique. Elle présente la réalité d'un Dieu personnel, un Dieu personnel. C'est ce que la Bible donc présente. Alors cela ne signifie pas que Dieu est une personne comme vous et moi en tant que tel. Dieu est esprit comme nous l'avons rappelé, et le prophète Osée au chapitre 11 verset 9 dit « Je suis Dieu et non pas homme ». Mais cela signifie donc le fait que Dieu soit un Dieu personnel, cela signifie que Dieu présente des traits de caractère que l'on retrouve chez l'être humain, puisque ce dernier, l'être humain, a été créé à l'image de Dieu. Donc, si l'être humain est caractérisé par une volonté, on suppose que Dieu a aussi une forme de volonté. Si l'être humain est pourvu d'une intelligence, ben, comme l'être humain a été créé à l'image de Dieu, on peut supposer que Dieu est un être encore supérieur en intelligence. Si l'être humain éprouve des émotions et des sentiments, on peut supposer aussi que Dieu, qui a créé l'homme à son image, éprouve aussi, ressent aussi des sentiments, ressent des émotions. C'est un Dieu personnel en ce sens. Dieu éprouve de la joie, Dieu éprouve de l'allégresse, Dieu éprouve de la tristesse, Dieu éprouve de la compassion, Dieu éprouve de l'amour, mais Dieu éprouve aussi de la haine et de la colère devant, entre autres, le mal et devant le péché. Dieu est un Dieu personnel en ce sens. Il n'est ni lointain, ni silencieux. Il n'est pas indifférent, insensible à la condition humaine. Il n'est pas indifférent, insensible au sort de l'être humain, au sort de sa créature. Ne pensons pas que rien n'affecte Dieu, que Dieu soit insensible. Bien au contraire, il nous aime, comme nous l'avons rappelé ce matin, d'un amour sans limite, d'un amour sans pareil, d'un amour sans aucune comparaison. Il nous aime d'un amour sans borne. Il nous aime d'un amour fou, j'ai envie de dire. À un tel point qu'il a décidé, dans un élan de compassion et d'amour, précisément, de venir à notre rencontre. Le Dieu éternel, infini, esprit, invisible, incorporel, dans un acte d'amour, dans un élan de compassion envers le genre humain, a décidé de venir sur cette terre à notre rencontre. Tout d'abord pour révéler la nature de son être, pour nous montrer comment est Dieu, pour montrer à l'être humain la nature, l'essence de son être, en quelque sorte. C'est Jésus qui dit « Nul n'a vu le Père, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » Et puis il y a d'autres versets comme Colossiens 1, verset 15 qui dit « Jésus est l'image du Dieu invisible ». Jean 14, versets 8 et 9 dit « Seigneur, montre-nous le... » C'est Philippe, je crois, qui dit « Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Avant, au chapitre 10 de ce même évangile, au verset 30, Jésus affirme devant les pharisiens, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et ça attire la foudre des Juifs, évidemment. Mais par cette déclaration, Jésus atteste qu'il est bien l'incarnation du Dieu invisible venu sur la terre. Jésus atteste par cette déclaration son union avec Dieu, qu'il est pleinement uni à la personne divine. Jésus est Dieu. Il est venu sur cette terre, donc, tout d'abord pour révéler la nature parfaite de Dieu, sa grâce, sa sainteté, ses perfections, ses vertus, etc., etc. Alors, pour venir jusqu'à nous et pour devenir l'Emmanuel, eh bien, il a fallu cette démarche de ce qu'on appelle en théologie la kénose. Alors, la kénose, c'est quoi? Eh bien, c'est le dépouillement de la divinité. Jésus, pour venir jusqu'à nous, Jésus, pour venir à notre rencontre, a dû se dépouiller de sa condition humaine, de sa condition divine, de ses prérogatives divines, de certains de ses attributs. Jésus a dû renoncer à un certain statut qu'il occupait dans la sphère céleste pour venir jusqu'à nous. Ça, c'est la kénose. Et alors, c'est ce que Paul, d'ailleurs, exprime à travers le cantique que l'on trouve dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 6. C'est un chant qui était chanté dans l'Église primitive. Hein. Au verset 6, nous disons, on peut l'afficher à l'arrière, là, sur l'écran. Et Philippiens, chapitre 2, verset 6. Peut-être que c'est au verset... Attends un petit peu. Au verset 5, peut-être... Rajoute le verset 5, tu veux bien? Aussi? Non, au verset 6 et 7, alors. Voilà. Donc, verset 6, tout d'abord. On va le lire. Mais il s'est dépouillé... Verset 6 d'abord. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, ou bien selon d'autres versions, comme une proie à arracher. Hein, ça fait référence à des oiseaux de proie qui se disputent une proie, un oiseau par exemple, de rapaces qui ne veulent pas se partager une proie. Ça fait référence à cela. Donc il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, verset 7. Mais il s'est dépouillé, la kénose, lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Reconnu comme un simple homme. Cet esprit éternel, infini, a quitté sa transcendance pour venir intégrer un corps semblable au nôtre à part le péché. On peut aussi, on ne va pas les lire, mais mentionner les versets d'Hébreux 10, verset 5, ou encore Romains 8, verset 35. Dieu est venu à la rencontre de l'être humain. Dieu est venu sur cette terre à notre rencontre, et s'il est venu ici-bas en Christ, c'est aussi pour nous réconcilier avec lui-même. C'est ce qu'on a rappelé ce matin à travers nos prières, à travers la présidence. Dieu est venu à notre rencontre pour nous réconcilier avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19, tu peux l'afficher, écrit ceci. Car... 2 Corinthiens 5, 19. En effet, écrit Paul dans ce verset-là, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Pourquoi ? Parce que les offenses des êtres humains ont été imputées à Jésus-Christ, qui, sur la croix, a été sanctionné, châtié, condamné à notre place. La mort de Jésus est le prix de notre salut. Bien sûr, Jésus est ressuscité pour sceller sa victoire sur la mort, et sa résurrection nous donne cette espérance de notre propre résurrection. Mais le centre le centre de notre salut, le prix de notre salut, c'est la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Suis-je réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis passé par cette nouvelle naissance? Est-ce que je suis né de nouveau? Si Christ, Jésus, si Dieu est venu à notre rencontre sur cette terre, si le maître de l'univers est venu s'incarner en un être humain, c'est aussi pour faire de toi sa demeure. Si je suis né de nouveau, si tel est le cas, Dieu veut faire de chacun d'entre nous sa demeure. Dieu veut faire de ton corps son temple. Littéralement, c'est Dieu veut faire de ton corps le naos, son naos. Et le naos, c'était dans le tabernacle et dans le temple la partie qui c'était le lieu très saint, c'était le saint des saints. Donc Dieu veut faire de ton corps le saint des saints, le lieu très saint de sa très sainte présence. Dieu veut faire de ton corps sa demeure. Alors c'est un miracle inimaginable, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui comporte aussi des implications pour chacun d'entre nous, évidemment. Paul écrit en 1 Corinthiens 6, verset 19, ces paroles bien connues, tu peux l'afficher là derrière si tu l'as. C'est 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, donc est le naos, est le lieu très saint, est le saint des saints du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Et les implications, elles suivent ici. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent désormais à Dieu. Dieu a fait de nous sa demeure et il attend qu'à travers notre corps, il soit glorifié. Que nous renoncions aux œuvres de la chair pour que nous vivions par l'Esprit. Voilà les implications de cette réalité de la présence de Dieu dans nos vies, par son Esprit. Alors on peut voir aussi, on ne va pas les lire non plus, un autre verset qui fait référence à cette réalité. C'est 1 Corinthiens 3, verset 16 et Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Dieu veut établir une connexion particulière, une connexion privilégiée avec chacun d'entre nous. Dieu veut établir une relation, une communion, un dialogue proche et profond avec toi. C'est ce que Dieu veut. Établir une relation profonde, intime avec toi. Et c'est dans ces moments privilégiés, bénis, précieux, dans un lieu secret, en présence de Dieu lui-même, que nous pouvons puiser force, joie, paix, exaltation, bénédiction, etc., amour, etc. Souvenons-nous, quand Moïse est descendu de la montagne où il a rencontré Dieu personnellement, et à chaque fois qu'il sortait de la tente de la rencontre ou de la tente d'assignation, il était transfiguré. Son visage réfléchissait ou reflétait la gloire de Dieu. À travers ces moments précieux que nous pouvons avoir avec Dieu dans la communion intime, profonde, eh bien, nous aussi, nous pouvons en sortir transfigurés. Nous sommes transformés de gloire en gloire. la rencontre entre Dieu et son enfant, que nous sommes devenus par pure grâce, a un effet transfigurant chez le chrétien. On ne sort pas de la présence de Dieu comme on était avant. On a un privilège réel et immense que de rencontrer Dieu dans sa sainte présence. Et cela a été rendu possible uniquement par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix et qui nous donne désormais un libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 19, désormais un libre accès au sanctuaire par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons un libre accès. Le voile a été déchiré et nous pouvons avoir ce grand privilège de rentrer dans la présence de Dieu et de cultiver, d'entretenir notre relation avec lui. Et de pouvoir bénéficier ainsi de toute une série de bénédictions que nous pouvons puiser à travers cette communion. Mais pour conclure, rappelons que le Dieu éternel, souverain, invisible, est venu à notre rencontre. Il est venu à notre rencontre en Jésus. Sommes-nous allés à la sienne ? Sommes-nous, de notre côté, allés à sa rencontre ? Avons-nous rencontré personnellement le Christ Jésus ? Jésus est venu pour nous offrir la réconciliation, comme nous l'avons rappelé. Il est venu pour nous offrir la réconciliation avec Dieu. Est-ce que nous avons saisi cette réconciliation ? A-t-il fait de mon corps son temple, sa demeure ? A-t-il fait de mon corps le lieu très saint de sa très sainte présence ? Et enfin, son désir, rappelons-le, est aussi d'établir une relation intime avec chacun d'entre nous. Est-ce que j'expérimente personnellement cette relation ? Est-ce que j'expérimente personnellement, régulièrement, cette relation avec Dieu ? Comment vivons-nous, et nous terminerons par cette question, comment vivons-nous notre relation avec Dieu ? Comment vivons-nous notre relation avec Dieu ? Est-ce que nous allons à sa rencontre ? Lui qui est venu ici-bas à la nôtre. J'aurais bien voulu lire je suis nostalgique des vieux cantiques ces derniers temps, vieillissant, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis nostalgique des vieux chants. Mais on ne l'a plus. C'était « Le ciel a visité la terre, Emmanuel vient jusqu'à nous. Dieu se fait homme au saint mystère que son peuple adore à genoux. » Voilà. Que Dieu nous aide à considérer ce grand privilège que nous avons de pouvoir rencontrer le maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses, qui est venu jusqu'à nous dans le but de nous sauver et d'établir une relation intime avec chacun de ses enfants.